RCF.
9h-11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc que j'agis, consacrée au Rwanda. Vous l'entendez, car en 2024, le Rwanda commémore l'un des massacres les plus sanglants du XXe siècle. Comment les habitants peuvent-ils vivre avec la mémoire de ce génocide qui aurait fait entre 800 000 et 1 million de morts? Comment se reconstruire en tant que Rwandais? Et bien, une des manières justement de faire mémoire, c'est de retranscrire les récits et l'histoire grâce à l'art, que ce soit dans la littérature, la peinture, le théâtre. On va en parler jusqu'à 11h. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que l'art vous a permis de vous intéresser au génocide des Tutsis au Rwanda? Si vous avez vu une exposition, si vous avez vu une pièce, lu un livre, un film qui vous a marqué autour de ce sujet, venez nous les présenter. Et d'après vous, plus généralement, est-ce que la culture peut permettre de raconter la souffrance et de s'en libérer? Venez discuter avec nous et nos invités au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou directement dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on accueillera également notre chroniqueuse en toute fin d'émission, Philomène Villard, de la sauvegarde de l'art français, qui nous parlera de l'engagement des lycéens pour restaurer leur patrimoine local. Ce sera à 10h50. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos deux invités ce matin. Je commence avec vous, Dominique Lurcel, bonjour.
Bonjour.
Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin en studio. Vous êtes metteur en scène, vous êtes aussi le fondateur de la compagnie Passeur de Mémoire. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour nous parler d'une pièce que vous avez montée il y a déjà quelques années et qui va revenir tout simplement au Théâtre de l'Épée de Bois. C'est en Île-de-France, une pièce qui s'appelle Une saison de machette, qui tire son nom, si je ne me trompe pas, Dominique Lurcel, d'un livre qui est sorti en 2003, qui vous a vraiment bouleversé. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'il s'est passé pour vous? Parce que vous n'êtes pas rwandais, je tiens à le préciser, vous n'avez pas forcément de lien avec le Rwanda, à part cette période 2003 où il y a eu un déclic chez vous.
Oui, à l'époque, je n'avais pas de lien avec le Rwanda. J'en ai maintenant beaucoup. Mais déjà, la question, les questionnements sans fond autour des phénomènes génocidaires, ça faisait très très longtemps que je me posais, dès que j'étais impliqué. J'avais mis en scène précédemment, en 95, des conversations avec Primo Levi. Et donc, j'avais déjà lu le premier recueil de témoignages de Jean Hatzfeld qui s'appelait Dans le nu de la vie, dans lequel il donnait la parole ses amis de Nyamata, puisque Jean Hatzfeld est quelqu'un qui vit en grande partie aujourd'hui entre la France et ce village à 30 kilomètres de Kigali. Et j'avais été bouleversé par ce premier livre. Mais en tant que metteur en scène, et c'est aussi pour ça que j'avais mis en scène des conversations avec Primo Levi, je me méfie toujours du pathos. Et autant c'est bouleversant de lire, autant je ne sais pas comment dire, c'est un peu fort de dire ça, mais je ne veux pas courir le risque de prendre les spectateurs en otage. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est facile d'être bouleversé par ce qu'on entend. On ne peut pas ne pas l'être. Et ce qui m'intéresse davantage, théâtralement en tout cas, c'est d'essayer de questionner. Et là, en 2003, je tombe, je crois qu'il était sorti la veille, sur le second livre de Jean Hatzfeld, qui s'appelle Une saison de machette, dans lequel il donne la parole aux Hutus, aux génocidaires, à un groupe de cultivateurs qu'il a rencontrés en prison et qui lui ont parlé de façon très naturelle de ce qu'ils avaient fait pendant cette fameuse saison entre avril et juillet 1994. Oui. Pardon. Et là, je me dis, mais au fond, c'est la première fois dans les histoires des génocides, on n'a jamais la parole des tueurs. Ils sont dans le déni, ils se cachent, ils rasent les murs, enfin ils ne disent, ils ne racontent pas. Sur la Shoah, on n'a pas de récit. On n'en a pas. On a le journal de Heuss, on a, bon, mais des tueurs de base, je dirais, entre guillemets, on n'en a pas. Oui. Sur l'Arménie, on n'en a pas. Sur, bon, voilà. Et là, brusquement, il y a une parole qui s'exprime de façon très, très libre, naturelle, presque naturelle, voilà, sans, et qui décrit tous les mécanismes, qui fait entendre la manière dont un génocide peut advenir. Hmm. Et là, du coup, je me dis, ça, il faut le faire entendre. Ouais. Il faut le faire entendre. Parce que ça, évidemment, ça dépasse très largement la question du seul Rwanda. Hmm. Ce sont des questions qui nous concernent tous.
Et le voilà. Titre du livre, et donc le titre aussi de la pièce « Une saison de machette » est également très fort. On va en parler ensemble. Dominique Purcell, je vous présente notre deuxième invité, François Hutaïzir. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Ijikumbi. C'est le centre culturel rwandais en France. Je vous pose cette question, j'ai posé la même à Dominique Lursel. Hein. Quel est votre lien, vous, François, avec le Rwanda ?
Le lien avec le Rwanda, il est évident, il est clair, c'est parce que je suis rwandais. Je suis rwandais. Le génocide, quand il est survenu en 94, j'étais exilé. J'étais un exilé que j'étais depuis presque un quart de siècle. J'ai quitté le Rwanda en 73 parce que j'étais à ce moment-là à la faculté de médecine. Je suis médecin de formation.
Oui.
Je suis pédiatre. Je ne suis pas artiste. Je tiens à le préciser. Et donc, j'étais chassé de ce pays-là en 73. On a tendance à croire que le génocide est survenu au Rwanda comme ça, tout d'un coup. Il y a des décennies. Hein, où l'idéologie du génocide a fonctionné à plein et c'est ce qui a permis à ce que le génocide puisse se dérouler comme il s'est déroulé. Mmh. Voilà. Donc, j'étais exilé depuis un quart de siècle. J'étais en France à ce moment-là. Et je me suis retrouvé avec d'autres compatriotes en train d'essayer d'expliquer ce qui se passait parce que quand il est survenu pour la presse, pour beaucoup de Français qui s'intéressaient au Rwanda ou qui en entendaient parler, c'était une histoire de lutte ancestrale entre tribus. Et il fallait expliquer qu'il s'agissait d'un génocide qui se déroulait sous leurs yeux. Donc voilà comment, depuis un quart de siècle, je suis... Oui. Depuis maintenant trois décennies, je suis dans mes moments. Maintenant, je suis retraité, donc j'ai un peu plus de temps.
Et c'est pour ça que vous êtes là aussi ce matin. Merci de prendre ce temps, d'ailleurs.
Voilà. Oui.
Dominique Lursel, je vous ai vu au Pinet du Chef quand François nous racontait un peu aussi la situation dans les médias en 1994. Est-ce que vous vous souvenez, en tant que Français, quand vous découvriez les infos à ce moment-là, est-ce que vous compreniez ce qui se passait ?
Le problème, c'est que je n'avais pas la télévision à l'époque.
Oui.
Et non, mais c'est vrai, c'est important. Et que, en effet, j'étais vraiment... J'étais en plein dans mes répétitions sur Primo Levi, donc c'est un peu étrange parce que bien évidemment il se passait en même temps quelque chose de commun, en tout cas évidemment il y avait des spécificités, mais quand même quelque chose qui se répétait. Et j'en ai pas pris conscience tout de suite. Je crois que c'est tout à fait à la fin des années 90 que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé au Rwanda. Et c'est vrai ce que je disais à mon interlocuteur, c'est avec les premiers livres de Hatzfeld que j'ai vraiment pris conscience. Oui. C'est-à-dire vraiment en 2000, à partir de là. Et c'est vrai qu'à partir de là, mais je constate ça avec tous les gens que je rencontre, c'est dès qu'on entre dans cette histoire-là, on peut plus en sortir. Je veux dire qu'il y a un investissement, une implication très très particulière qui dépasse très largement la dimension intellectuelle. C'est extrêmement affectif.
Un peu comme
c'est
un virus.
Oui, c'est un virus total. Et moi, je le ressens chez tous les intervenants ou les historiens ou les journalistes. Ils sont pris. Voilà, il y a une chose. Je ne sais pas de quoi c'est fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que cette implication, et après, il y a évidemment les rencontres avec des Tutsis qui deviennent des amis, une vraie famille. Moi, je comprends très bien le mécanisme de Hatzfeld qui a trouvé sa famille à Nyamata. Enfin, voilà, ça c'est... Mais il n'est pas le seul. Bon. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris conscience tout de suite. Je pense que j'ai fait partie quand même peut-être de ceux qui ont été les plus anciens à prendre conscience, parce qu'il y a eu quand même un temps très long en France pour s'apercevoir de ce qui s'était passé. On le voit encore dans le livre Le Choc là, qui vient de sortir, où les historiens, les journalistes qui communiquent dans ce livre, il y a une sorte de culpabilité française de ce retard à l'allumage, en fait. Hein.
Ouais. Voilà. François Rutaillizière, vous voulez compléter ?
Oui, ce que je crois que c'est le génocide, c'est quelque chose de à la fois d'inhumain, parce que c'est incompréhensible que quelqu'un qui a reçu la vie en don comme don puisse décider et de façon massive d'ôter la vie à d'autres personnes pour ce qu'ils sont. Pour ceux qu'ils sont. Et donc, c'est en cela que le génocide est humain. Mais en même temps, le génocide est humain parce qu'il a été commis, il est commis par des humains pour une idéologie qui est bien là. Ce que j'avais envie de dire, c'est que la façon d'y répondre, elle est multiple, comme la vie. Il y a les mots.
Oui.
Il y a les mots, et pour le dire, c'est ce que tout à l'heure j'écoutais les intervenants, tous les mots qu'ils pouvaient utiliser, et ça c'est. Mais, et là, l'éventail est très large. Mais il y a, comme la vie, il y a d'autres façons d'y répondre aussi. Il y a la culture de façon générale, il y a l'art de façon générale. Et ce qui vient en premier lieu, comme ça, c'est les mots. Et est-ce que les mots, une fois à partir du moment où ils sont organisés, qu'ils sont, disons, pensés, c'est de la littérature. Et en cela, je vais parler peut-être des activités de ce centre culturel qu'on a créé. Ce centre, voilà, il est. On organise régulièrement, c'est une jeune association. Au mois de juin, on avait organisé des rencontres entre écrivains rwandais et écrivains africains. Parce que celui qui a fondé cette association, il tient beaucoup. Il y a un fonds culturel commun. Donc, on a organisé des rencontres d'écrivains rwandais et africains. Et essentiellement, à ce moment-là, c'était sur le génocide, mais pas que sur le génocide.
Oui.
Et à ce moment-là, le génocide quand même nous a sur 3 jours, je crois qu'on avait une journée entière qui était consacrée au génocide. Et puis on a décidé que une fois on ferait ces rencontres en France, et la fois d'après on les ferait au Rwanda. Donc on les a fait au mois de juin, c'était la première édition, et la deuxième édition vient de la terminer. On l'a fait en février, au mois de février, au Rwanda. Et on a organisé, la première journée a été organisée au centre mémorial à Gisozi. Et voilà, et puis les autres jours, c'était sur la littérature de façon générale.
Donc cette association, je rappelle son nom, hein, on l'a cité tout à l'heure,
Idi Chumbi.
Voilà, je prononce pas très bien, je suis confus.
Oui, ça part, ouais.
Sur votre site internet, c'est noté que c'était un incubateur culturel rwandais pour favoriser l'émergence d'un collectif d'artistes africains à Paris. Quel rôle a la culture dans ce pan de l'histoire ? Que peut apporter la culture pour raconter aussi, d'après vous, François ?
Alors, la culture, elle peut raconter beaucoup de choses. Hein, parce que il y a comme je disais, donc, la littérature de façon générale. Mais à la littérature, aux mots, on peut juxtaposer, bien superposer le son. Et là, ça devient de la musique. Hein, et qui est toujours, ça peut être centré sur le génocide, bien sûr. Et aux mots et aux sons, on peut ajouter l'image. Et là, ça devient du cinéma. Et on s'est rendu compte que depuis que le génocide a eu lieu, disons, avant le génocide, la culture, l'art au Rwanda, c'était quelque chose d'assez réduit parce que c'était réprimé par le pouvoir en place, parce que soi-disant que c'était quelque chose de Tutsi. Ça, on n'a jamais compris. C'était la culture, elle est rwandaise, elle n'est pas Tutsi, elle n'est pas Hutu. Mais le pouvoir en place avait décidé que c'était quelque chose de Tutsi et que, par conséquent, il fallait réprimer ça. Mais on s'est rendu compte qu'après le génocide, il y a une explosion hein, de tout ce qui est activité culturelle. Et dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans le domaine de la musique. Vous, tout à l'heure, vous passiez la musique de Gaël Faye.
Oui. Hein,
voilà. Et il y a d'autres musiciens rwandais qui l'ont fait, dont
Corneille,
la musique était centrée sur la jeu. Il y a Corneille, et puis il y a le Belge, comment il s'appelle, le Belgo-Rwandais, là, je ne sais, le nom m'échappe tout de suite. Et donc, on s'est rendu compte que dans tous les domaines, hein, littérature, musique, cinéma et autres, même la sculpture, la peinture, Stromae. Merci, ça
m'est voilà, revenu aussi.
C'est ça. Ouais. Donc on s'est rendu compte, même au niveau de la sculpture, de la peinture, tout ça, il y a une explosion hein, au Rwanda actuellement, et justement au niveau de nos objectifs, nous avons l'intention de explorer tous ces domaines-là. Oui. Avec d'autres, bien sûr, pour pouvoir montrer la richesse de la culture rwandaise d'une part, et puis comment elle peut répondre au génocide, participer en tout cas à la réponse, aux réponses qu'on peut essayer d'apporter au phénomène du génocide.
Et, voilà. Et notamment donc, le théâtre, et c'est pour ça que Dominique Lurcel est avec nous ce matin. Et je rappelle le titre du livre qui vous a permis vraiment de créer cette pièce de théâtre en 2006, Une saison de machette. Hein, c'est un livre de Jean Hatzfeld qui est sorti en 2003 aux éditions du Seuil. En fait, l'auteur l'a composé en montant des récits de tueurs de génocide des Tutsis au Rwanda qui ont été condamnés par leurs actes. Hein. Ça aussi, c'est important de préciser, Dominique Lurcel.
Ils ont été condamnés et je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous revenus sur les collines,
oui.
Sauf un qui était un petit peu trop bavard et qui a été assassiné. Mais en dehors des autres, il est déjà très bavard d'ailleurs avec Hatzfeld. On le repère très 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 vite dans le livre, mais il parlait trop et donc il a disparu. Mais les autres sont, sauf un je crois, qui est encore aujourd'hui en prison.
Comment vous avez fait 3 ans après la lecture de ce livre, ou même rapidement d'ailleurs, pour mettre en scène un sujet qui est extrêmement dur?
Alors d'abord, je l'ai lu 4 fois parce oui. qu'il faut l'intérioriser, il faut choisir, il faut construire. Le livre est construit en champ contre champ. Il est très intelligemment fait. C'est-à-dire que Hatzfeld prend la parole, donne la parole, reprend la parole, réfléchit. Il y a une sorte de va-et-vient comme ça entre l'analyse qu'il fait et la parole donnée au cultivateur. Moi, j'ai évidemment centré la représentation sur les paroles du cultivateur en gardant quand même 4 petites interventions de Jean Hatzfeld. Alors, sur le plateau, sur scène, je dirais c'est compliqué, c'est simple à la fois. C'est-à-dire que le travail est très compliqué. Et c'est un travail. Il faut trouver la note juste de la transmission, parce que ce qui est fascinant dans ce livre, au-delà de ce que racontent ces cultivateurs, c'est la manière dont ils le racontent. C'est-à-dire que il y a une sorte de suspension de la conscience qui apparaît, une sorte de décalage. Assez étonnant entre ce qu'ils ont fait et la façon qu'ils ont de la transmettre, de la raconter. Il y a une des premières choses que je disais aux comédiens, c'est ça me fait penser à L'Étranger de Camus, c'est-à-dire cette vitre qui existerait entre les événements et soi-même, comment on voit les choses. Il y a, ce décalage est permanent, donc à travailler ça, c'est assez difficile. Il faut pas qu'il soit trop impliqué, il faut pas qu'il soit trop neutre. Enfin, et après. Sur le plateau, c'est d'une simplicité absolue ce qui arrive. C'est-à-dire que c'est un travail choral. Ils sont 4, plus un contrebassiste, mais 4 comédiens. 2 hommes et 2 femmes, je tenais à ce qu'il y ait des femmes, parce que le génocide, ça a été aussi une activité féminine. Et puis, l'autre chose, on va voir comment c'est reçu là. J'avais eu déjà en 2006 une ou 2 petites remarques, mais pas plus. J'ai choisi 4 comédiens, dont 3 blancs, oui. et un comédien d'origine africaine, camerounaise, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, parce que je tenais absolument dès le départ à ne pas en faire une affaire africaine. Voilà. Pour moi, c'était un discours universel et je ne voulais surtout pas que l'image entre encore dans ce stéréotype du oui-oui, qui sont des histoires d'ethnie, sont des sauvages, etc. Tout ce discours raciste, en fait, qui a perduré, qui d'une certaine façon encore aujourd'hui perdure. Quand on parle de moi, j'en parle avec mes voisins de palier, je vois très bien les réactions. Ils sont pas informés, ils ne savent pas, quoi. Et donc ça, je voulais échapper absolument à ça. Ce qui fait que l'universalité du propos apparaît tout de suite. Voilà. Ça, pour moi, c'est essentiel. Hein, et après, on va voir si on est accusé d'appropriation culturelle. Enfin, que ça, dans tout le débat actuel, ça peut. C'est possible. Ouais. Mais il y a des arguments pour contrer ça, quand même. Ouais. Voilà.
François Routaillizir, est-ce que vous avez lu ce livre de Jean Hatzel? Est-ce que vous avez vu également la mise en scène de Dominique Curcel, peut-être?
Non, je l'ai pas vu.
Mais encore.
Par contre, les livres d'Asfeld, je les ai lus. Il n'y a pas que ceux-là, je les ai lus tous. Ouais. Hein. Aussi bien les siens que beaucoup d'autres livres, tout ce qui est passé sur le génocide pratiquement. Il y a peut-être les soucis qui sont récents de cette année que j'ai pas encore lu, mais j'ai bien lu tous ces livres et je le connais personnellement. On a même voyagé l'autre jour quand on partait sur le Rwanda. Alors, ce que j'avais à dire sur le théâtre. Hein. Bon, d'une part, le génocide. Il est face à deux challenges. Hein. D'une part, le premier challenge, c'est la mémoire. Hein. La mémoire, parce que là, par exemple, ça fait 30 ans que le génocide a eu lieu. Les jeunes qui sont nés aujourd'hui, il faut qu'ils puissent avoir la mémoire qu'on puisse avoir la mémoire de ce qui s'est passé. Il y a la transmission. Or, au Rwanda, il y a deux choses. C'est qu'on est une société où l'écrit n'est que récent. Donc, on est des traditions orales. Donc, le théâtre, il y a deux aspects de la littérature qui sont importants pour moi. C'est le théâtre et c'est la poésie. Parce que c'est les deux, c'est quelque chose d'oral. Hein. Les gens, ils viennent, ils assistent au théâtre et puis ils s'en vont. Mais ils auront appris quelque chose. La poésie, c'est pareil parce que le Rwanda, c'est une terre de poésie. Hein. Et ça, depuis des siècles. Depuis des siècles. C'est pour cela que, d'ailleurs, nos rencontres de littérature, on les appelle les rencontres Nyirarumaga. Nyirarumaga, c'est une grande poétesse rwandaise du 15e siècle, hein, qui a permis à ce que, aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à cette poétesse-là, et qui était une grande poétesse, et puis qui a créé une institution qui a permis à ce que tout soit transmis jusqu'à aujourd'hui. Donc, le théâtre, la poésie, moi, je crois que c'est deux genres littéraires qui sont, idéales, ou idéaux, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est l'idéal pour une population, hein, où la tradition orale est très importante, telle que le Rwanda. Donc j'encourage monsieur à c'est Dominique Curcel, à continuer à présenter même sa pièce de théâtre plus tard au Rwanda.
Alors sur cette question, je me pose cette question, parce que j'aurais la possibilité d'aller la jouer au Rwanda. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment au public français que je veux m'adresser en premier. Je me dis, aller au Rwanda aujourd'hui, faire de nouveau entendre cette parole-là, dans un pays qui se reconstruit, qui essaie de panser ses plaies, je trouve que c'est un petit peu retourner le couteau dedans, quoi. Je sais pas si c'est... Moralement, pour moi, c'est une vraie question. J'ai pas de réponse, hein. Mais quand on l'a joué en 2006, je me souviens qu'une des premières personnes que j'avais contactées, c'était Esther Mujahewayo, qui est venue, qui n'avait pas réussi à lire le livre avant. Elle m'avait dit à l'entrée, je n'ai jamais pu dépasser la deuxième page.
Je la comprends. Et oui, voilà. Je la comprends. Elle a vécu ça.
Et je pense que j'étais assis derrière elle pendant la représentation. Après, il y a eu un très très beau débat avec elle. Mais pendant la représentation, elle avait sa tête appuyée sur l'épaule de Souad Bel Haddad, avec qui elle avait fait le premier livre survivante. Ouais. Et je sentais qu'elle souffrait, c'était pas possible, quoi. Et je me disais, mais non, à quoi bon? À quoi bon? Voilà. Et c'est la question que je me pose. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment aller jouer au Rwanda? Je n'en suis pas sûr.
Il faudrait peut-être l'adapter, je n'en sais rien. Parce que si on raisonne comme ça, même les commémorations qu'on fait.
Oui, c'est vrai.
Il faut ben bien dire ce qui s'est passé, ce qui se passe et tout ça.
C'est vrai que
ça fait partie de la mémoire, ça fait partie de la transmission.
Mais vous avez raison,
on ne peut pas l'ignorer en se disant ça va remuer le couteau. Mmh. Mais de toute façon, le couteau, il est là. Mmh. Et les plaies sont là. Mmh. Hein. Donc, de se dire qu'on remue le couteau dans la plaie, je ne crois pas que ce soit. Peut-être l'adapter, peut-être la façon de le faire sur place, peut-être mettre cette fois-ci introduire un Rwandais dans la troupe, je n'en sais rien. Bon, je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça. Mais je ne crois pas que ce soit remuer le couteau dans la plaie, parce que le couteau, il est là, les plaies sont là. Hein. Et il ne faut pas imaginer qu'on va vivre avec cette histoire-là, cette affreuse histoire.
Bon.
Et ça fait partie de notre mémoire, ça fait partie de notre transmission à faire. Voilà.
Bon,
ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas.
Merci, voilà. Merci.
Je suis ravi d'avoir créé une rencontre ce matin. Je vais vous laisser tranquille si vous voulez. Non, mais c'est intéressant d'entendre. Voilà, c'est un débat qui a du sens. Dominique Lurcel, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit quelque chose de très fort en parlant de ce livre que vous avez lu déjà donc en 2003. On est aux racines du mal. Comment le metteur en scène que vous êtes a eu le déclic pour se dire là, il faut que j'arrive à adapter cette pièce, ce livre en pièce de théâtre. Est-ce que vous avez quand même hésité autour de ce sujet? Parce qu'on était quoi? On était 10 ans, après, un peu plus de 10 ans après le génocide.
Alors, je n'ai pas hésité une seconde.
Pas une seconde.
J'étais en train de construire un autre projet, une pièce théâtre contemporain. J'ai tout laissé tomber. Mais du jour au lendemain, je me suis dit ça, c'est essentiel, mais vraiment essentiel. Non, mais ce qui est essentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette parole qui s'exprime comme ça de façon quasiment naturelle. Mais surtout, ce qui me semble essentiel, c'est qu'à travers tout ce qu'ils disent, on comprend comment peut se dérouler, comment se construit un génocide. Vous disiez tout à l'heure, évidemment, ça n'a pas commencé en 94. Dans la parole de ces cultivateurs, ils ont 6 ans de décalage entre leurs actes et le moment où Hatzfeld les rencontre. Et ils ont eu le temps de réfléchir, pas à tout. Ils ont un peu de mal à réfléchir à leur propre comportement. Mais en revanche, dans leur témoignage qui apparaît très nettement, c'est la lucidité qu'ils ont par rapport à la manière dont les choses ont été mises dans leur tête. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Comment on passe des mots aux actes, par exemple? Comment dès 59, et les premiers pogroms, les premiers massacres, devant lesquels le pouvoir ne réagit pas, donc qui autorise les suivants, la manière dont, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que les blagues de cabaret peuvent se transformer en actes criminels? Quel est le déclic? À quel moment est-ce qu'il a lieu? Quel est le rôle de Radio Mille Collines, etc. Donc, tout ça, on l'entend extraordinairement. Donc, les manipulations. Et ça, vraiment, je pense que c'est universel. Donc, ça, c'est essentiel. Et dans le livre, c'est remarquablement, c'est analysé par ces cultivateurs. Ils sont tous sauf bêtes, hein. Il y a une très grande intelligence de ce qu'ils ont vécu. Même si, en effet, il y a un rapport à la conscience qui est problématique, mais ce sont des gens qui ont eu le temps de penser en prison. Mmh. Et ça, on l'entend très, très fortement. Donc, c'est ça qui m'a... Mais dès 2006, je me suis dit, mais ça concerne... Je regardais encore, dimanche soir, une émission sur la 5 en société. Il y avait un reportage sur Modi en Inde. Mais je me dis, mais c'est pareil, quoi. On a tous les mécanismes sont en place.
On va marquer une petite pause, François et Dominique, dans Je pense donc, Jaïf, il faut qu'on marque une petite pause. On a encore plein de choses à se dire. C'est très intéressant, et notamment sur le rôle de l'art, de la culture. Dites-nous si l'art vous a permis de vous intéresser au génocide des Tutsis au Rwanda, si vous avez vu une exposition, une pièce, si vous avez lu un livre, vu un film qui vous a vraiment marqué autour de ce sujet. Venez nous les présenter au 04 72 38 20 23. Et puis, si d'après vous, la culture peut vraiment permettre de raconter la souffrance et de s'en libérer, là aussi on a envie d'entendre votre témoignage. 04 72 38 20 23, tout de suite.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis. Vous venez prendre la parole au 04 72 38 20 23 pour nous parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Si l'art vous a permis de vous intéresser à ce qu'il s'est passé, venez nous en parler. Et puis si la culture peut permettre vraiment de raconter la souffrance et de s'en libérer, même de raconter l'histoire, venez nous dire ce que vous en pensez. 04 72 38 20 23.
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh oh.
Jour après jour,
on voit combien tout est éphémère.
Alors même en amour,
j'aimerais chaque haine comme si c'était la dernière. Je savoure chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière.
Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin.
Combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers,
alors on vit chaque jour comme le dernier.
Chaque jour, chaque
moment. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez.
Seulement vous saviez.
Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin.
Il avait 17 ans, Corneille, lors du génocide des Tutsis au Rwanda, et quand un groupe armé est entré dans sa maison familiale en 1994 et a assassiné ses parents ainsi que ses deux frères et sa petite sœur, il a assisté au massacre, Corneille. Il a survécu, même si voilà, il a eu une coupure importante. Cette chanson, parce qu'on vient de loin, je la trouve très forte au niveau des mots, hein, et on sent aussi dans sa discographie que sa musique et ses textes s'inspirent largement de ce qu'il a vécu. François Rutaillis-Sirine, je rappelle que je suis désolé, je prononce très très mal votre nom de famille, je crois, depuis le début de cette émission, François.
Ça, c'est Allez, la fin, on n'en a rien à cirer. Le début, c'est comme Ruta Baga.
Oui.
Et puis, il faut mettre juste le « yi » au milieu. Ruta, yi, sire. Voilà.
Ruta,
c'est comme
yi,
ça que je fais quand je ne voilà. suis pas bien réveillé le matin. C'est ma façon de
me... Ruta, yi, sire. Non, mais vous avez bien raison de me le dire. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Ijikumbi.
Ijikumbi, oui. Voilà. Centre culturel rwandais en France.
Exactement. Oui. On a entendu cette chanson de Corneille. Vous nous avez parlé de Corneille également. Alors, Gaël Faye aussi, qu'on a entendu dans la première partie de Je pense donc j'agis. On pense à Stromae. Ce sont des artistes qui vous inspirent, vous, François?
En tout cas, quand ils prennent à bras le corps, quand ils font avec leurs dons, hein, ils utilisent leurs dons pour parler de ce qui s'est passé, c'est sûr, ça, je me sens concerné et je me dis, il faudrait que d'autres aussi... On peut souhaiter que d'autres s'occupent, ça n'en part. Voilà, ça c'est clair. Je voulais juste une chose, deux choses.
Oui.
Comment passe-t-on des mots aux actes? Tout à l'heure a dit Dominique.
Oui.
Moi, je crois que c'est Corneille qui le dit, on vient de loin. Le génocide a des racines coloniales. Je ne vais pas y revenir. Je crois que d'autres qui m'ont précédé l'ont dit. Le génocide a des racines coloniales. Il a une participation du régime rwandais, hein, qui a pratiqué pendant plus de trois décennies, un apartheid qui ne disait pas son nom. Donc c'est comme ça qu'il a inculqué, même jusqu'aux paysans rwandais, qu'ils pouvaient faire un génocide sans aucun problème. C'est simple. Quand quelqu'un commettait tué des Tutsis dans les années 50, dans les années 60, 70, 80, il recevait une promotion. S'il était simple conseiller, il devenait maire. S'il était maire, il devenait préfet. Voilà comment on inculque dans une population que tuer un Tutsi, ce n'est pas grave, c'est même une bonne chose, une belle chose, puisqu'on a une promotion avec ça. Donc, racine coloniale, participation des régimes rwandais à idéologiser, ils ont idéologisé une société, voilà comment en 94, il a suffi qu'on dise « allez-y » de façon massive pour que la population y aille de façon massive, adultes, enfants, femmes, hommes, tout ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, certes, on parle du génocide, mais il y a une volonté dans ce pays, des Rwandais, de ne pas être pas que des victimes. Il faut essayer d'en sortir d'une certaine façon. On a voulu supprimer la vie, mais la vie doit renaître. Et c'est là où il y a une résilience qu'on observe dans ce pays-là. Et la façon de dans cette résilience-là, l'art peut jouer son rôle. Je vous cite un exemple. Là, actuellement, il y a une exposition d'une œuvre d'un artiste qu'on appelle, d'un plasticien qu'on appelle Bruce Clark, qui est actuellement au Rwanda, et qui s'appelle « Les femmes debout ».
Oui.
Ça, c'est une œuvre où il montre, je crois que c'est des femmes qui ont, il met ça sur des sortes de tentes, des femmes qui ont plus de 6 mètres de hauteur et 3 mètres de large. Et ils exposent ça devant des monuments et actuellement, il est exposé à l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour montrer la résilience. Pourquoi les femmes debout? Ça, elle vient, cette œuvre-là, ces œuvres-là, bien après, les hommes debout. C'était pour dire, il y a eu un génocide, mais les hommes se sont relevés pour essayer de se battre pour que ce génocide n'emporte pas et les rescapés, et le Rwanda lui-même, et les Rwandais de façon générale. Ouais. Et actuellement, c'était les hommes debout, maintenant c'est les femmes debout, parce que dans ce rôle, les femmes ont joué un rôle très important dans ce qui est survenu après le génocide, dans le phénomène de la résilience. Voilà les deux choses que je voulais dire.
Je rappelle le nom de cette exposition, Bruce Clark, donc Vie d'après, des artistes face au génocide des Tutsis du Rwanda. Si je ne me trompe pas, c'est le nom de cette exposition. À voir jusqu'au... Alors attendez, je prends mes notes en même temps, je suis confus. À Aix-en-Provence, jusqu'au 9 juin 2024. Dominique Lurcel, vous vouliez, je crois, réagir à ce que disait François.
En accord total.
Oui.
C'est-à-dire, sur la première partie, déjà, c'est vrai que, et ça on l'entend très très fort dans les paroles encore de mes 10 cultivateurs, c'est comment les valeurs sont inversées, comment l'autorisation est donnée, comment le mal devient le bien. Et cette façon, cette bascule-là, c'est la mise en place de ça, et notamment ce qu'ils disent de façon très claire, c'est-à-dire le passage de la relation individuelle à l'ennemi collectif. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à généraliser les points de suspension, on entre dans un discours racialiste et qui peut devenir génocidaire. Là, les paysans disent, nos copains, on voyait bien qu'ils n'étaient pas différents de nous. Ils étaient comme nous. Au champ, les femmes, on nous disait qu'elles étaient plus grandes, on nous disait que, mais on voyait bien que c'était pas vrai. Mais c'est ce discours-là qui l'a emporté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne voit plus le voisin comme un ami, on le voit comme un ennemi. Et c'est lui ou moi. Ça, c'est la première chose. L'autre, c'est en effet ce que vous venez de dire, c'est le profit qu'on y trouve. Audouin Rouzeau dit à la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Il répond, parce qu'ils le pouvaient. Et ça c'est une autre dimension, c'est terrible. C'est-à-dire que sur le moment, ils ont trouvé leur compte. Ils ont pu piller, ils ont pu agir. Il y a un moment donné où il n'y a plus de surmoi dans cette histoire-là. On sent très bien que c'est le ça qui s'exprime de A jusqu'à Z. Et c'est terrible, c'est une sorte de déferlement, mais qui... je pense qu'on a tous en nous. C'est pas du tout, encore une fois, une histoire ni africaine ni rwandaise. C'est une question universelle. C'est aussi pour ça que moi je monte ce spectacle. C'est pour faire entendre ça. Et alors l'autre point, je suis aussi d'accord totalement sur cette résilience, parce que vrai que moi je vois les amis
et l'art peut permettre ça d'ailleurs.
Rwandais que je connais, c'est absolument magnifique de voir comment ce seront absolument pas des victimes, absolument pas. Ils ont la douleur en eux, ça c'est une chose. Elle sera en eux toute leur vie, mais ils se construisent, ils vivent,
la vie
ils
est
ont
devant.
Des enfants, ils ont une... la vie est devant. Ouais. Et c'est aussi une façon de dire, ils ont raté leur coup, quand même. Ouais. On est là. Je crois que c'est la seule façon de réagir. Sinon, en effet, on est dans la dépression, on est dans... Mais évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas y échapper. Hein.
Ouais. Je reviens un instant sur votre pièce Une saison de machette. La première création, c'était en 2006, si je me trompe pas, avec votre compagnie Passeur de mémoire. Elle a dormi un petit peu ensuite. Elle est revenue en 2013 grâce à une association lyonnaise.
C'est-à-dire que c'était pas la pièce à ce moment-là.
Oui.
Mais cette association, je vis à Lyon maintenant, et cette association avait entendu parler de ce spectacle. Et a pris contact avec moi parce que c'était un groupe de jeunes qui étaient tous... Alors, ils avaient, au moment, en 94, entre 1 et 17 ans. Donc, quand je les ai rencontrés, c'était le 20e anniversaire, en fait. Donc, ils avaient entre 21 et 37 ans. Et ils se réunissaient parce qu'ils avaient besoin d'échanger ensemble, une fois par mois, sur leur enfance, au fond. Pas forcément parler du génocide lui-même, mais se raconter leurs histoires d'enfants. Et ils souhaitaient me donner ces textes pour que je les monte. Et moi, j'étais tellement bouleversé, j'ai assisté à une de leurs soirées, que je leur ai dit, mais non, il n'est pas question que je fasse ça avec des professionnels, on va faire ça ensemble. Et donc, je peux même pas dire qu'on a fait un spectacle, mais on a construit
un projet,
un collectif de paroles. Qui s'est beaucoup promené en France. En fait, on pensait le présenter deux fois à Lyon, et en fait, on a été demandé dans plusieurs endroits. Et c'est là où l'affectif est entré totalement en jeu, avec eux. Et sont restés des frères et sœurs pour moi. Hein. Je suis en contact permanent avec eux, et qu'ils soient en France ou au Rwanda aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Et donc, ce sont eux qui m'ont persuadé de reprendre le spectacle pour le 30e anniversaire, pour la commémoration des 30 ans.
Et c'était logique pour vous, ouais. Ah oui, c'était pas forcément un automatisme.
Non, parce que d'abord, j'aime pas forcément être là pour des commémorations.
D'accord.
Ça m'énerve toujours. Ouais. Vous savez, les programmes.
Des anniversaires.
Disent, ah ben non,
ou des...
Ça, cette année, oui. Mais après, on a fait le Rwanda l'an dernier. On va pas reprendre D'accord. un spectacle là-dessus cette année. Hein. Bon, ça, c'est un peu le discours dominant. Mais là, ça s'est imposé. C'était évident. Oui. Non, c'était évident.
Et ça va commencer bientôt, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, au théâtre de l'Épée de Bois.
Lausanne.
Vous êtes à Lausanne
pour une
avant-première.
Non. Dimanche prochain, on joue à Lausanne. Et à partir du 25, on est au théâtre de l'Épée de Bois à Paris, à la Cartoucherie de Vincennes.
Oui.
Il y a 15 plus de représentations, parce que moi, je tiens énormément à toucher le public lycéen.
Oui.
Donc, on a ajouté deux lycéennes qui sont déjà complètes. Ça, c'est formidable. Donc, on joue jusqu'au 12 mai. Mais après, ça sera repris. Là, je suis très content de ça parce que ça sera repris à Paris de nouveau en novembre, dans un ancien nouveau théâtre. C'est l'Espace Cardin qui est devenu Théâtre de la Concorde et qui va prendre 5 représentations en novembre. Et ensuite, on jouera à Lyon dans la foulée 5 fois aussi en novembre. Donc c'est très très bien. Avec, ça j'y tiens beaucoup, énormément de bords plateaux. Là, sur Paris, il y a 7 soirées déjà.
Des bords plateaux, ça veut dire quoi, alors?
Oui. Ça veut dire qu'après la représentation, il y aura des échanges avec des invités.
Ouais. Du débat.
Et là, il y aura Annette Becker, il y aura Catherine Cocchiot, il y aura Stéphane Audouin-Rousseau, il y aura Pierre Lépidi du Monde, il y aura Maria Malagardis de Libération. Enfin, des gens qui ont d'ailleurs, quand je parlais de l'affectif tout à l'heure, c'est ça aussi, qui, quand je les prends contact avec eux, réagissent de façon épidermique et disent oui, je serai là. Ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres sujets. Vraiment, il y a quelque chose de très très fort là qui se passe.
Il faut que je vienne vous voir à Lyon, alors Dominique Gursel. On note aussi les acteurs, hein, les comédiens, Céline Botorel, Maya Letter, Omar Mounir Alaoui, et puis Tadier Twiné, j'espère que j'en oublie pas.
Et Yves Rousseau à la contrebasse.
Yves
Rousseau, très grand contrebassiste de jazz.
Voilà. François Routaille-Désiré, pièce, vous allez essayer d'aller la voir?
D'autant plus. Elle se déroule à l'espace Pierre Cardin où on était justement au mois de juin. C'est là où se sont déroulées notre première édition des rencontres des écrivains rwandais et africains. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Et puis je serai aussi à la Cartoucherie de Vincennes d'abord, puisque ça a l'air d'être plus immédiat. Mm-hmm. Oui, c'est ça. OK. Non, je voulais rajouter autre chose pour montrer comment l'art peut jouer un rôle important. On vient justement au mois de février. Au Rwanda, de faire la première triennale des arts, des arts au Rwanda, et qui s'est déroulée au mois de février. Et elle réunissait, je ne sais pas, plus de 20 pays africains, au Rwanda, 20 pays africains, même des pays extra-africains au-delà de l'Afrique. Et ça s'est déroulé, ça a réuni beaucoup, beaucoup de monde, et ça a eu beaucoup de succès. Et c'était tous les arts, là. C'était pas que la littérature, c'était la peinture, la sculpture, c'était le théâtre, c'était beaucoup de... Voilà. Et donc, cette triennale devrait pouvoir se dérouler, comme son nom l'indique, tous les 3 ans. Et donc, c'est pour vous montrer vraiment l'importance de l'art, que l'art peut avoir dans la guérison. Si on peut parler de guérison, en tout cas dans la résilience. Dans la résilience, c'est une forme de guérison aussi.
Ouais. Voilà. Ça, c'est une conviction pour vous, hein. C'est ce qu'on entend vraiment aussi dans ce que vous dites tous les deux, Dominique Gursel et François Routaille-Désiré, c'est que l'art peut vraiment apporter ça, peut apporter peut-être ce recul nécessaire sur un sujet qui est très dur pour... tenter peut-être de mieux comprendre avec une manière de raconter les choses qui change, par exemple, d'un livre historique ou d'un reportage.
Exactement, parce que d'abord, elle intéresse un livre historique. Combien de Rwandais, par exemple, liront ça pour. Voilà, il n'y en aura peut-être pas autant que ce qu'ils vont aller voir une pièce de théâtre, que ce qu'ils vont aller voir, je sais pas, entendre un poème, des poèmes, des choses comme ça. Donc, ça intéresse déjà beaucoup plus de monde, en tout cas, pour ce qui est de la tradition orale, des peuples de tradition orale. Et puis, même pour les autres, c'est une autre façon de parler des choses qui peut passer plus facilement, qui peut rester plus longtemps. Et voilà. Donc, ça participe. Il n'y a pas que ça, mais ça participe de façon assez importante. Voilà. Et puis avec le recul, je crois que c'est ça aussi. C'est là qui va jouer davantage que les mots, parce que bientôt, bon, ceux qui ont vécu, ceux qui ont souffert du génocide dans leur chair, les rescapés, d'ici quelques décennies, bon, on en aura de moins en moins. Donc voilà, et à ce moment-là, l'art peut jouer un rôle de substitution, disons, si on peut parler comme ça.
Dominique Hursel. Voilà. Oui.
Ben, en ce qui concerne le théâtre, l'incarnation, évidemment, apporte une dimension supplémentaire. Même quand, encore une fois, je me méfie du pathos, mais le fait d'entendre une parole, c'est autre chose que de la lire, tout simplement déjà. Et puis, enfin, moi, je travaille énormément avec les enseignants, donc je multiplie les débats, les échanges après les représentations, les visites dans les classes. Parce que je pense que c'est essentiel de concerner les jeunes générations. Et d'ailleurs, elles le sont. Hein. Elles le sont. Le génocide des Tutsis est maintenant au programme des terminales. C'est quand même un progrès. Oui. Et je vois comment... Là, je travaille avec une jeune femme qui est chargée de mission à la Ligue de l'Enseignement, mission nationale, sur la question du génocide des Tutsis. C'est elle qui a rempli les salles. Moi, je n'ai rien fait. Les deux salles lycéennes, il y a 600 élèves qui sont arrivés d'un coup. C'est elle qui a fait le travail. Et qui donc, qui va dans les classes avec des rescapés, qui contextualise, parce qu'évidemment, le témoignage est important, mais la contextualisation l'est aussi. Et tout ça, pour moi, ça fait partie du travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas question juste de donner un spectacle et de repartir chez soi, chacun de son côté. Pour moi, c'est insuffisant, ça.
Voilà. On est donc 30 ans après ce génocide, François. Pour quelqu'un qui ce matin découvre peut-être ce qu'il s'est passé, parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi des gens qui sont nés après, qui n'ont pas forcément tous les éléments de ce qu'il s'est passé. Vous dites ce matin, voilà, on est 30 ans après, il s'est passé des choses absolument terribles. La vie continue au Rwanda, François Rutayisere.
La vie continue et doit continuer, et c'est ça la réponse qu'on peut donner à ceux qui ont fait le génocide, à ceux qui ont commis ce génocide-là. La vie continue et doit continuer, c'est la meilleure réponse qu'on puisse leur donner, parce que leur objectif c'était détruire la vie. Hein? Et là, le fait de faire renaître la vie, d'avancer, c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner face à ça. Bon, là, j'aimerais quand même dire quelque chose qui me tient à cœur.
Oui.
Je pense donc j'agis.
Je crois que c'est le nom de l'émission. Je pense donc j'agis, absolument.
Je pense donc j'agis.
Il est bien, hein?
Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense, dans le mot dans penser, derrière penser, hein, on peut bien penser, on peut mal penser. Ce qui nous ont amenés au génocide, c'était la pensée aussi, mais une pensée, une idéologie qui était derrière. C'est grâce à ça qu'ils ont commis le génocide. Après, il faut pouvoir penser, mais de façon positive, et puis éradiquer cette idéologie-là. Cette idéologie-là, il ne faut pas croire que parce qu'on est dans la phase de résilience, parce que ça fait 30 ans après, que cette idéologie-là est inexistante maintenant au Rwanda et dans la région. C'est une idéologie qui, malheureusement, hein, est toujours là, rampante. Hein. Donc, il faut penser à ça et essayer de tout faire pour lutter contre cette idéologie-là. Parce que si elle est toujours là, rampante, hein, on n'en sort pas. Et en tout cas, ça nous retarde de sortir de cette histoire-là, terrible histoire. Voilà l'idée que je me tenais à cœur, cette idéologie-là. Il faut vraiment penser, pouvoir agir contre.
Et ben, on va finir là-dessus. Merci vraiment à tous les deux d'avoir participé pendant une heure. Dominique Hursel, je rappelle que vous êtes metteur en scène et fondateur de la compagnie Passeurs de Mémoire. Et donc, on peut voir votre pièce Une saison de machette du 25 avril au 12 mai au Théâtre de l'Épée de Bois. C'est à Paris. Et puis après, plus tard dans d'autres villes en France et notamment à Lyon. Le plus simple, c'est d'aller, où est-ce qu'on peut se renseigner? C'est directement sur le site du Théâtre de l'Épée de Bois.
Sur le site de l'Épée de
Bois. Épée de Bois.com. Oui, oui. Voilà, tout simplement le. Eh ben, merci Dominique Curcel d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
François Routaille-Isiré, merci beaucoup également pour votre participation et puis pour aller se renseigner sur tout ce que vous faites dans votre centre culturel rwandais en France. C'est ijikumbi.fr. On mettra le lien sur notre site rcf.fr. Ce sera peut-être plus simple. C'est presque fini puisque nous, on va parler du patrimoine tout de suite, le patrimoine de vos régions. Et oui, parce qu'à la sauvegarde de l'art français, printemps rime avec engagement, en l'occurrence celui de lycéens qui s'engagent pour restaurer leur patrimoine local. On en parle avec vous, Philomène Villard, bonjour.
Bonjour Melchior. En effet, vous êtes habitué à ce que je vous parle du plus grand musée de France ici, c'est-à-dire ces campagnes de restauration du patrimoine mobilier qui impliquent la société civile. Mais j'ai une petite question pour vous aujourd'hui, Melchior. À votre avis, pour transmettre notre patrimoine aux générations futures, il faut y intéresser qui avant tout?
Alors les jeunes, je dirais, comme ça. Comme un peu on a dit d'ailleurs dans cette émission aujourd'hui.
Et c'est ça, exactement dans la ligne de votre émission, c'est bien les citoyens de demain, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est précisément dans ce but que depuis 2018, la sauvegarde développe son programme du plus grand musée de France au sein de classes de lycéens, pour les sensibiliser et même pour les impliquer directement dans la sauvegarde du patrimoine. Et cette année, par exemple, 11 classes de lycéens participent au projet dans toute la France, de Bordeaux à Boulogne-sur-Mer, en passant par Aix-les-Bains, la Bretagne ou les Pays de la Loire.
Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce programme, Philomène ?
Alors, d'abord, en début d'année scolaire, grâce à l'expertise des conservateurs de leur département, chaque classe de lycéens s'est vue présenter une sélection d'œuvres ou d'objets mobiliers qui se trouvent non loin de leur lycée, qui sont visibles, comme toujours, dans l'espace public et qui ont besoin d'être restaurés. Et ensuite, dans un deuxième temps, Melchior, ils ont pu se rendre sur chacun des sites pour voir les œuvres en question, pour rencontrer les élus locaux et les associations de protection du patrimoine, et puis pour recueillir surtout toutes les informations sur ces œuvres, donc leur histoire, leur signification, mais aussi leurs besoins de restauration. Et ensuite, ce sont leurs professeurs qui ont pris le relais en classe pour les faire travailler sur les œuvres grâce à des cours d'histoire de l'art et puis à des recherches d'archives. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'au printemps, on arrive au point culminant du programme, celui où les lycéens deviennent vraiment pleinement acteurs du patrimoine. Et ça prend en fait la forme d'un concours d'éloquence où ils doivent, par petits groupes, présenter et défendre chacune des œuvres devant tous les partenaires et les élus des communes en lice. Ensuite, ils débattent entre eux, les lycéens, et ils votent pour l'œuvre qu'ils veulent voir restaurée, avec à la clé quand même une somme de 10 à 12 000 euros qui est accordée par un mécène. Et ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est qu'à ce stade, les lycéens, ils sont devenus de vrais conservateurs en herbe et ce sont les seuls décisionnaires, c'est-à-dire que les adultes n'ont pas le droit de vote.
Et les lycéens se prennent-ils au jeu pendant ces concours d'éloquence, Philomène ?
Ah oui, je peux vous dire, Melchior, que c'est même un moment très émouvant. Là, entre mars et début avril, on a déjà vu 6 classes de lycéens passer leur grand oral de défense du patrimoine et rivaliser d'éloquence pour défendre leurs œuvres. Alors, beaucoup d'élèves ont utilisé l'humour et des références bien à eux, vous allez l'entendre, pour capter l'attention de leurs camarades. Je pense par exemple à ces élèves de Laval, en Mayenne, qui défendaient une statue de Psyché en arguant que, je cite, « même si elle ne boit pas de Red Bull, elle mérite de retrouver ses ailes ». Et d'autres ont imaginé des mises en scène astucieuses de leur discours, comme, je vous le donne en mille, Melchior, une fausse émission radio à Aix-les-Bains. Eh oui, avec comme invité le maire de la commune et puis un historien de l'art qui était donc joué par les élèves. Bref, vous pouvez l'entendre, le patrimoine est entre de bonnes mains. Et vous, Melchior, rassurez-vous, la relève radio est assurée.
Bah, pas tout de suite quand même. Merci beaucoup, Philomène Villard, d'avoir été avec nous et rendez-vous sur le site de la sauvegarde de l'art français pour en savoir beaucoup plus. Merci encore à vous, Dominique Curcel et François Routaille-Isiré, d'avoir participé à l'émission. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait en studio. Merci à Nicolas, à Baptiste et Catherine à la réalisation ce matin. On se retrouve demain avec un autre sujet dont je pense donc j'agis, l'enjeu de la culture dans les territoires ruraux. On verra aussi comment redynamiser les centres-villes. Voilà le programme pour demain matin avec vos réactions déjà dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Bonne journée à tous.